ser.
Latina.
La franco-latina.
Le professeur Jean-Marie Charcot naît à Paris le 29 novembre 1825, fondateur de l'école de la Salpêtrière, habita cet hôtel de 1884 jusqu'à sa mort le 16 août 1893. Son fils, le commandant Charcot, y vécut ses années de jeunesse. Voilà l'une des histoires, de toutes les histoires qu'il y a dans cet immeuble du 217 boulevard Saint-Germain, où se trouve la maison de l'Amérique latine à Paris. C'est ici, dans cet immeuble aussi, que nous attend Anne Husson, arrivée en 1984 pour s'occuper de l'activité culturelle. Elle nous attend dans son bureau. Allons-y. Anne Husson, bonjour et merci de nous recevoir dans cette merveilleuse maison.
Merci beaucoup à toi, Eduardo, parce que c'est vrai que ça fait, comme on dit en français, un bail qu'on se connaît. Et je suis très contente de réactiver quelque chose qu'on avait déjà un petit peu mis en pointillé, je me souviens, à l'époque de Radio Latina, il y a 25 ans peut-être. Donc là, c'est peut-être un retour, pas aux sources, mais à une nouvelle, un nouveau partenariat peut-être.
La Maison d'Amérique latine existe depuis quand ?
Bon, la Maison d'Amérique latine est une institution qui a 60 ans, qui est née en 46, dans le sillage de la résistance, après la Seconde Guerre mondiale. C'est De Gaulle qui l'a souhaité, qui l'a voulu, et qui a été donc après mis, concrétisé et mis en œuvre par plusieurs personnes, dont Paul Rivet, le directeur fondateur du Musée de l'Homme. Il y avait Robert de Billy aussi à l'époque, le pasteur Valéry Radeau, et un ambassadeur du Brésil qui était à Paris dans l'entre-deux-guerres, qui s'appelle Souza Dantas. Et cette maison a été créée pour, au fond, d'une part, un petit peu symboliquement remercier, entre guillemets, les pays d'Amérique latine qui s'étaient tenus aux côtés des alliés, et puis aussi pour, à la manière de De Gaulle, pour faire ces grands gestes symboliques d'amitié vis-à-vis des peuples, et puis d'un continent qui, par tradition, était très proche, évidemment, de l'Europe.
Et cette maison dans laquelle nous sommes, c'est la dernière demeure ou c'est la demeure unique de ce projet ?
C'est la dernière demeure, je ne sais pas si ce sera la dernière dans l'éternité, mais au début, évidemment, la maison n'était pas là, elle était avenue d'Iéna, et elle s'est installée ici au 217 boulevard Saint-Germain en 1965, au moment de la décolonisation de l'Algérie, parce que c'était en fait la Banque d'Algérie ici. Quand il n'y a plus la Banque d'Algérie, c'est devenu la Banque de France, et la Banque de France a accueilli la maison, enfin en tant que locataire, bien sûr, et nous y sommes depuis ce temps-là. Mais la maison, donc, est à 60 ans, comme je disais, 62 ans, mais elle a vécu quand même plusieurs étapes aussi dans sa vie, depuis, disons, la première étape, grosso modo, donc 46-65, et puis 65-82, et 82-84, nouvelle transition, et une nouvelle association qui s'est créée en 84, avec à sa tête un ambassadeur de France qui avait été en Bolivie, qui avait laissé beaucoup de traces en Bolivie, qui connaissait bien l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, qui s'appelait Guy Georgi, et qui a été l'artisan avec Elisabeth Burgos, évidemment, parce que c'est une personne qui a beaucoup œuvré aussi pour que la maison se crée, cette nouvelle refonte de la maison. Donc depuis 84, on vit sur cette nouvelle version de la maison, mais aussi depuis entre 84 et aujourd'hui, évidemment, elle s'est améliorée dans le sens qu'on a fait des travaux de rénovation, on a rendu plus fonctionnels les espaces, on a créé un auditorium, on a créé un véritable espace d'exposition, une galerie, on a une programmation très intense, deux activités par soir, souvent, de tranches horaires. On accueille beaucoup d'associations franco-latino-américaines qui ne savent pas où se réunir chez nous, et nous en sommes très heureux. Enfin, je veux dire, le contenu à exploiter et à mettre en forme entre la France et l'Amérique latine est absolument inépuisable.
Je voudrais qu'on sorte de l'institutionnel pour aller dans le personnel, si j'ose dire. Comment es-tu arrivé à l'aventure latino-américaine en général, et puis à celle de la Maison d'Amérique latine en particulier ?
Alors cette aventure, pour moi, elle a vraiment démarré en 84. J'avais pas fait des études universitaires sur l'Amérique latine avant. Je suis pas une hispaniste d'origine. Je suis plutôt en fait une angliciste. J'ai fait mes études aux États-Unis et je suis arrivée au début des années 80 à Paris. J'étais très versée dans le monde de l'art et le monde de l'art contemporain. Et c'était un hasard et des coïncidences qui m'ont fait arriver à la Maison de l'Amérique latine. C'est vrai que de toute façon, j'avais beaucoup d'intérêt pour ce continent et pour cette culture. J'avais lu mes classiques, pas les grands classiques du siècle d'or concernant le monde hispanique, mais j'avais quand même lu le boom latino-américain. J'avais beaucoup lu tous les grands best-sellers et les grands auteurs. Alors je me suis plongée là-dedans avec ravissement absolument. Et surtout, c'était une époque très tumultueuse encore pour l'Amérique latine. Il se passait des choses tous les jours. C'était la fin des vieilles dictatures, le début de nouvelles démocraties. Donc c'était un moment passionnant et je me suis tellement plongée là-dedans que j'ai oublié tout le reste. Et pendant un certain temps, je savais même plus parler l'anglais. Tellement il fallait que je me scinde en deux pour rentrer dans la peau d'une latino-américanophile et fun et voilà.
Il faut dire que tous ceux qui viennent de temps en temps ou souvent dans cette maison s'accordent à dire que sur le domaine culturel, tu portes une grande responsabilité sur la quantité d'activités qui s'est fait ici. Si j'ai bien compris, ici, il y a, tu l'as déjà un peu évoqué, d'une part les grands projets qui sont montés par la maison seule ou avec des partenaires, les projets que la maison accueille, et puis il y a, je dirais, la petite activité, sans que le petit ait quoi que ce soit de méprisant, des petits groupes qui font un peu la fourmilière quotidienne des échanges franco-latino-américains. C'est Paris de mélanger la grande manifestation très glamour et très importante, très institutionnelle avec le quotidien. C'est un Paris plutôt réussi.
Réussi, je sais pas. En tout cas, ça fonctionne bien parce que c'est vrai que il y a tout un public qui revient très régulièrement parce que c'est comme s'ils venaient à la maison retrouver l'oncle ou la tante ou la grand-mère. Des activités régulières, ils se retrouvent, un public fidèle autour de thèmes qui les intéressent. Ça, c'est évidemment, ça concerne beaucoup ces associations qui sont spécialisées dans l'une la culture argentine, l'autre péruvienne, l'autre colombienne. Parfois, c'est sur le cinéma de telle région. C'est parfois très pointu dans leurs orientations. Et ça, c'est pas que pour se faire plaisir à soi-même, parce que ces associations drainent toujours dans leur sillage des nouvelles personnes qui s'intéressent, parce que ces personnes ont fait un voyage récemment, mettons, en Uruguay, alors ils veulent poursuivre leur intérêt pour l'Uruguay, admettons comme ça. Mais bon, ça, c'est la petite histoire qui fait la grande, comme chacun sait, et vice-versa. Nous, la maison, donc, fait cette politique d'accueil, d'association, et puis à cet autre volet qui est plus de production, d'initiatives personnelles propres à l'équipe de la maison. Tout ça cohabite très bien. Bien sûr, on pourrait changer, on pourrait se dire que non, on va se concentrer, on va beaucoup plus choisir dans ce que proposent les associations, ce qu'elles font. On pourrait leur dire, écoutez, pour la maison, c'est mieux que vous expliquiez le nouveau site qu'on a découvert qui ressemble à Machu Picchu, Choquequirao, et ne pas parler des textiles de Paracas qu'on montre en ce moment au Quai Branly. On pourrait obliger les gens à être plus, plutôt que de se disperser dans une myriade d'activités. Mais au fond, pourquoi ces gens-là drainent autant de public à chaque fois, et tant mieux pour l'esprit et la connaissance de tous. Donc en fait, on change pas nos habitudes. Évidemment, les soirées se remplissent beaucoup à ce rythme-là. Alors on a toujours des dates qu'on leur réserve pour les activités que l'équipe de la maison organise. Donc on n'est jamais à court de faire des choses nous-mêmes. On n'est pas envahi entre guillemets par les activités des associations. Enfin, tout ça cohabite très bien. Je pense pas que ça vaille forcément la peine de remettre ça en cause.
Pendant le temps que tu es là, ça fait 20 ans ou quelque chose comme ça. Comment tu as vu évoluer, d'une part, l'intérêt et le regard que les Français portent à l'Amérique latine? Est-ce qu'il a changé ou est-ce qu'on est encore avec quelques idées reçues qui ont la peau dure malgré toutes les choses que vous avez pu donner à voir et qui auraient pu éventuellement modifier ce regard?
Les clichés ont toujours la peau dure, hein, ça, y a rien à faire de toute façon, mais ceux qui viennent ici, c'est bien parce qu'ils veulent voir autre chose que des clichés. Donc, je ne peux pas avoir une appréciation très très juste, puisque c'est justement des gens qui veulent s'ouvrir à une plus grande connaissance. Donc, oui, le cliché du carnaval, ça existe. Le tango qu'on estampille sur la culture argentine, ça existe. Mais c'est pas que des clichés, c'est aussi des réalités. Et souvent, les pays eux-mêmes colportent ces clichés, qui sont aussi ces réalités. Il y a une chose quand même qui est frappante, c'est que malgré tout ce qu'on peut faire, on peut pas faire que le public soit plus grand encore. En fait, on s'aperçoit que quoi qu'on fasse, on tourne toujours autour de 60 personnes en moyenne pour une activité. Alors, on peut avoir 300 personnes pour quelque chose et on peut aussi avoir 10 personnes pour une autre. Donc, le public varie, mais c'est pas forcément en nombre. Alors, je crois que malgré tout ce qu'on pourra faire, et même si on y avait un palais des congrès dédié seulement à la culture latino-américaine, je suis pas sûre qu'on aurait forcément 1000 personnes à chaque fois dans les activités. Parce que on est des êtres fragmentés. On veut pas s'occuper de tout, toujours. Donc, on va voir une chose, une exposition sur l'art américain du 19e siècle, et puis on va voir une chose sur l'art péruvien. C'est comme ça. On peut pas se donner corps et âme, mais pour faire des choses plus ambitieuses, plus importantes. Il y a trop de choses à Paris, on fait ce qu'on peut et on peut pas toujours ambitionner de faire 1000 personnes. C'est pas possible. Alors, on renouvelle les publics au fur et à mesure. La presse s'intéresse plus à l'Amérique latine qu'avant parce qu'il y a une actualité, parce qu'il y a Lula, il y a des personnalités politiques qui font que l'Amérique latine brille un petit peu plus. Il y a toutes les questions on en revient toujours, toutes les questions de qui porte quoi. Et si quelqu'un qui a du charisme porte un projet, eh bien on en parlera plus, que ce soit l'Amérique latine, l'Asie ou ailleurs. Donc c'est aux latino-américains de s'imposer, c'est à la France d'écouter, d'accueillir, de proposer des échanges. L'intérêt pour l'Amérique latine ne repose pas que sur les épaules d'un public français ou d'une presse française. C'est aussi un résultat qui doit être partagé en amont par des gens qui ont décidé de mettre le paquet sur... Quand il y a eu l'année du Brésil en France en 2005, c'était pas que la France qui a décidé de montrer telle ou telle chose en France, c'était aussi les Brésiliens qui voulaient qu'on montre tel aspect de leur culture. Donc, de plus en plus, on est dans un monde d'échange. Alors, les résultats sont partagés et les conséquences sont partagées. Voilà.
Derrière ce que tu viens de dire, est-ce que je pourrais déceler peut-être un petit regret des attentes démesurées des latino-américains qui pensent que parce que c'est la maison de l'Amérique latine, il y a automatiquement un public et tout va se passer très bien, qu'il n'y a pas un effort à faire pour que le message que je vais porter soit bien compris?
Mais c'est-à-dire qu'on crée des frustrations parce qu'on est un peu les seuls en France, dans cette enveloppe qu'on a, c'est ce beau lieu, c'est cette belle maison, ces quelques espaces qu'on a. Alors, on crée beaucoup d'attentes et il y a une frustration forcément qui est générée parce que tout converge vers nous. Et au fond, ce qu'il faudrait, c'est que les pays d'Amérique latine créent plus de centres culturels. Par exemple, le Mexique le fait, l'Argentine l'avait, ne l'a plus, a une galerie certes d'art, mais c'est pas suffisant. Il faudrait que, bon, le Brésil aussi a une installation, mais au sein de l'ambassade. Alors, il faudrait que les pays prennent plus à leur charge de venir en France pour installer un pôle d'attraction de leur culture. Non, on peut pas tout prendre en charge, voilà. On peut pas. Alors, c'est vrai que mon regret, c'est que toutes les voies, tous les projets qu'on nous soumet, qu'on nous propose, on peut pas les intégrer, on peut pas les distiller, on peut pas les recevoir tous. Alors, ça fait que, en effet, on montre une parcelle de ce qu'on pourrait montrer. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Il faudrait que les pays se mobilisent plus, qu'il y ait une plus grande politique culturelle de la part des pays latino-américains, que ces pays latino-américains décident de mettre un petit peu plus d'argent dans leur enveloppe culture, que les ministères fassent plus pour l'exportation du produit culturel de leur pays, comme le fait le Mexique, qui le fait un peu moins qu'autrefois, mais le fait encore un peu toujours. Il faudrait que des pays comme le Pérou, comme le Venezuela, des pays qui sont pas totalement dénués de richesses tout de même, devraient se bouger un petit peu plus pour créer un centre culturel. Le Venezuela a des moyens de le faire, mais c'est une question de politique et j'ai pas enfoncé les portes ouvertes en disant ça, mais c'est bien vrai.
J'aimerais faire appel comme ça un peu violemment peut-être à tes souvenirs et que tu me parles de quelques moments de ces 24 ans, si j'ai bien compris, qui restent pour toi des souvenirs comme ça, de projets réussis et où tu peux dire tiens, ça a marché comme on l'avait rêvé, voire mieux.
Il y a une exposition, par exemple, parce que moi, c'est vrai que j'ai le pôle exposition, et comme il est plus long dans la durée, c'est celui dont on se rappelle le plus et que je vais plus facilement évoquer qu'une manifestation ou une table ronde. Mais c'est vrai que, par exemple, l'exposition en 1989 sur Wilfredo Lam qu'on avait fait, parce que c'était des œuvres du Musée des Beaux-Arts de La Havane qui n'avaient jamais circulé, et c'était en 89, et encore hier, quelqu'un m'en a parlé que cette exposition était restée dans son esprit. Des gens, vraiment, alors j'aurais même pas pensé qu'on pouvait s'en se souvenir de cette exposition, on m'en a parlé. Alors voilà, et ça c'était vraiment une exposition de rêve.
Oui, mais ça fait partie de la vie, quelqu'un qui entre et qui d'ailleurs regrette d'être entré. Et voilà, c'est Évelyne Lévy. Bonjour Évelyne Lévy.
Bonjour.
Et tu travailles ici, mais tu viens d'ailleurs.
Je ne viens pas d'ailleurs, je suis française.
Non, mais je pensais que tu venais d'Argentine, j'avais toujours cru ça.
Tout le monde le croit, non, j'ai une passion pour l'Amérique latine, mais qui ne fait malheureusement pas de moi une latino-américaine, mais de cœur, oui.
C'est peut-être le fait que j'ai été connue en chantant l'Amérique latine.
Exactement.
C'est bien pour ton émission de radio, parce que ça montre comme la maison malaxe et pétrie des origines diverses. Et Évelyne vient du domaine de la musique et de la chanson, par exemple, en dehors qu'elle a des origines lointaines d'Afrique du Nord et d'Espagne.
Tout à fait. 1492 n'est pas une date exceptionnelle que pour l'Amérique latine, mais les Juifs ont dû se réfugier. Et mes arrière-arrière-arrière-parents ont été d'abord au Maroc espagnol, et c'est pour ça que j'ai sûrement cette passion pour l'Amérique latine, où je retrouve des racines que je n'ai plus. Voilà. Donc je chantais, ne vous déplaise.
Elle était à l'Escale, ce lieu mythique par excellence de l'Amérique latine à Paris.
Voilà, ce qui prouve que quand quelqu'un interrompt, entre guillemets, un enregistrement, ça ne porte pas que de l'interruption. Et vous savez d'ailleurs que cette interview, ce module de la Franco Latina, d'ailleurs, s'appelle « Tel quel », c'est-à-dire que nos auditeurs vont vivre avec nous tel quel cette conversation s'est déroulée. Donc, le souvenir le plus fort qui vient, évidemment, c'était Wilfredo Lam.
Wilfredo Lam, il y a eu, pour venir récemment dans notre époque, il y a eu une très 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 belle exposition autour de Cortazar, vraiment dont on est très fiers aussi, parce qu'il y avait une vraie scénographie, il y avait une mise en valeur, on a parlé à la fois de la littérature, du personnage, de Paris à l'époque. C'est l'exposition qui sont un peu un être et l'univers dans lequel il s'est déployé, c'est toujours intéressant. Mais enfin, on pourra en citer des milliers d'autres, mais là, il faut que je révise mes classiques.
Un des grands événements musicaux de la Maison de l'Amérique latine, inoubliable pour le centenaire de Atahualpa Yupanqui, c'est que nous l'avons invité, les rares personnes qui l'aient invité, non pour venir chanter ou pour jouer de la guitare, nous avons invité le poète Atahualpa Yupanqui. Et pendant 2 heures et plus, il ne voulait plus s'arrêter. Malheureusement, la cassette s'est perdue. C'était une rencontre mémorable à la Maison de l'Amérique latine, autour d'Atahualpa, le poète.
Merci. Effectivement,
Moi, je pourrais rajouter, tous les grands écrivains sont tous passés par ici, n'est-ce pas? Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Octavio Paz. Justement, celui qu'on n'a pas. Alors, Eduardo, je ne sais pas si tu as des liens ou des façons de parler dans l'oreille de ce grand monsieur, mais il nous manque un grand personnage, c'est Garcia Marquez. Il n'est jamais venu faire rien à la Maison de l'Amérique latine. Je sais que parfois, il a passé devant la maison. Mais bon, je crois que c'est un combat un peu vain parce que, à son âge, il a envie d'être tranquille et je crois que ce sera, malheureusement, on ne pourra pas changer ça. Mais enfin, bon, peut-on rêver encore? Je ne sais pas. Et comme ça, on aura toute la brochette, on aura eu tout le boom chez nous. Mais sinon, on a fait des tas de débats. Comme je le disais tout à l'heure, parfois, on accueille des gens qui ne sont pas d'Amérique latine. Du Moyen-Orient, on a eu Elias Sambar, qui est un Palestinien formidable. Jean Daniel, qui a parlé de toutes ses chroniques sur la Palestine depuis 40 ans, qu'il a fait au Nouvel Observateur. Bon, Yves Bonnefoy, enfin, on a eu des grands moments à la maison et ça va continuer comme ça. Parce que on s'améliore toujours et on ambitionne de toujours être à la pointe de ce qui se passe à la fois dans le domaine littéraire latino-américain. Le paysage littéraire latino-américain actuel bouge énormément. Je ne sais pas si franchement on pourrait dire la même chose avec la France, je ne crois pas, parce que je crois qu'il y a une veine romanesque, un imaginaire des jeunes écrivains latino-américains qui n'ont plus rien à voir avec leurs aînés, qui ne le renient pas, mais qui est fascinant parce que, par exemple, il y a quelques auteurs latino-américains qui vivent aux États-Unis, dont l'imaginaire se trouve enraciné en Amérique latine, mais qui écrivent en anglais. Et pourtant, ils se sentent latino-américains. Donc, c'est intéressant, ces phénomènes. Je crois que là, il se passe des choses. Comme on disait qu'il se passait des choses, que l'Amérique latine était un laboratoire d'idées en macroéconomie ou en microéconomie qui s'est passé dans les années 80, 90. Bon, on a dit que c'était un laboratoire. Pas forcément avec des résultats très, très probants. Mais enfin, bon, ils ont essayé de changer la donne et de trouver des nouvelles recettes. Nous, on a plutôt l'impression qu'on patauge un piétine dans la farine, comme on dit ordinairement. Mais on a l'impression que soit on n'ose pas se lancer dans des nouvelles recettes, soit on fait les mêmes avec une autre étiquette, alors on croit que ce sont des nouvelles. Peut-être que parfois, on devrait plus prendre exemple sur les pays émergents, dont on dit à tort qu'ils sont émergents parce que finalement, ils sont plus émergents que ça. Peut-être qu'on devrait quand même beaucoup plus prendre modèle sur la souplesse de l'esprit, la réceptivité. Il faudrait plus perméable aux choses qui viennent d'ailleurs. Depuis un an, deux ans, on écoute un peu plus ce que font nos voisins européens. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre leurs recettes, mais déjà, je trouve que c'est par rapport à il y a 5-6 ans, on ne faisait pas ça. On ne parlait jamais de ce qui se passait en Angleterre, en Allemagne. Dans les discours actuels, que ce soit socialistes ceux qui nous gouvernent, on mentionne beaucoup plus ce qui se passe ailleurs. Donc c'est déjà un progrès. Il faut qu'on s'ouvre plus. Bon, voilà.
L'Amérique latine arrive dans les prochaines années à une échéance qui a une importance, surtout en ces temps-ci où on est très féru de commémorations, les centenaires, les 30 ans, les 40 ans de ceci, c'est le bicentenaire de vie républicaine de la plupart des grands pays d'Amérique latine. Et on sait bien que la France a été d'une manière ou d'une autre assez présente, aussi bien dans la naissance de ces républiques, ne serait-ce que par l'inspiration des idées de la Révolution française, etc. Et puis aussi, elle a été assez présente pendant ces 200 ans qui se sont écoulés. On sait que lors du premier centenaire, l'Amérique latine était très francophile. Tu sens que lorsque le bicentenaire arrive, il y a quelque chose de particulier que la France, l'Amérique latine peuvent se dire, peuvent se donner mutuellement, peuvent construire. Est-ce que la maison va faire de cet événement à un moment particulier de son activité?
Nous, c'est pas 2010, c'est plutôt 2011, tu sais, parce que bon, on s'inscrit dans une programmation plus nationale qui est pilotée par Culture France et qui va être l'année de l'Amérique latine, qui est une espèce de grand formule fourre-tout. On ne sait pas très bien ce qui va en émerger, mais enfin, disons qu'elle est inscrite dans les événements qui auront lieu pour justement encore mettre un gros coup de projecteur sur l'Amérique latine. Notre position là est un peu plus aisée, peut-être que pour les Espagnols, puisqu'on n'a pas eu un rôle direct dans la colonisation américaine, donc on est plus indépendant d'esprit et plus libre d'esprit dans nos relations avec ces pays-là. Mais à vrai dire, tout est encore assez flou, on ne sait pas très très bien autour de quel axe tout ça va tourner. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des grands événements, forcément, et qu'on va s'inscrire dans cette perspective-là. Mais je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle très bien ce qui va se passer.
Alors, nous sommes une jeune radio franco-latino-américaine qui a déjà des traditions. Et l'une de ces traditions dit que, à la fin de cette conversation, on demande, à toi en l'occurrence, de nous donner les noms des trois chansons ou musiques ou pièces de musique que tu aimerais écouter, qu'ils soient françaises, latino-américaines, peu importe. C'est juste parce que ces choix, d'abord, ça va nous donner à écouter trois choses différentes, probablement nouvelles, et ensuite, ça nous permet aussi de mieux connaître nos invités. Alors, Anne, je sais, un peu surprise, mais trois comme ça dans l'univers de toutes les choses que tu peux entendre qui te viennent à l'esprit.
Alors, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? La musique cubaine, mais incarnée par cette femme extraordinaire qui s'appelle Maria Teresa Vera, parce qu'aussi bien les paroles que les mélodies sont merveilleuses. Me vient à l'esprit comme ça, mettons, Kalsoum, j'adore aussi. Et puis, Miles Davis, le grand classique. Voilà, ce sont des registres, comme tu vois, un petit peu dans le même, un peu dans la mélopée, un peu comme ça, mélancolique. Mais en fin de compte, j'adore aussi danser sur des rythmes déchaînés, il ne faut pas croire.
Anne Husson, merci de nous avoir accueillis et à très bientôt sur la Franco Latina.
Merci Eduardo, à bientôt.
Sin que sepas que el día mío tiene lágrimas. la Franco Latina.
Vive la radio.
Vive la radio.
Vive la radio.
Vive la radio!